La police d'écriture sur le titre, qu'est-ce qui est orienté? Je vois les filiformes. Est-ce que ça permet vraiment de traduire l'idée qui est derrière? Merci bien.
Merci. D'abord, l'éditeur.
Bien, mon cher frère, éminent anthropologue, m'a interpellé à me poser une question essentielle quand même, hein. Vous savez, l'édition, c'est un travail de relations publiques. Il faut d'abord dire que nous croyons profondément à nos possibilités africaines comment dire, de partage de la pensée, de la littérature, de l'art et autres. Et c'est pour cela que, dans un premier temps, voilà, de manière générale, nous essayons d'aller partout où l'Afrique part, partout où l'Afrique nous permet de prendre la parole. Nous allons souvent à la Fondation Mouna, nous sommes parfois allés à Africrea, à Bastos, à Cheikanta Diop, sur la Nouvelle-Guinée-Bissau, et à bien d'autres endroits aussi. Mais il faut parler davantage de ce musée. Ce musée, je ne l'ai pas découvert très tôt. Je crois que ça fait 4 ou 5 ans que je suis venu ici pour la première fois. Et j'avais honte d'avoir mis tant de temps sans être venu dans cet espace. Et lorsque je suis arrivé, évidemment, j'ai rencontré Maman Thérèse Fouda qui est là, qui est toujours là, et qui fait vraiment honneur à la ville de Yaoundé, à la culture africaine. Je crois que aller à la rencontre de cette maman, ça bousculer quelque chose en moi. La voyant, voyant la résilience qu'elle a, les difficultés physiques que la vie lui a imposées, mais en même temps le courage et la force qu'elle a réussi à dégager, et le discours qu'elle tient, et la générosité. Il y a tous ces éléments-là. C'est une dame extrêmement généreuse. Chaque fois que je suis venu ici, elle m'accueille avec une courtoisie qui m'a toujours touché. Il y a d'ailleurs toi-même, mon cher frère. Nous avons entretenu pas mal de projets qui sont déroulés ici. Et je ne sais pas si dans cette ville de Yaoundé, il y a un endroit dans lequel on peut vivre ce que nous vivons en ce moment. Avec cette nature, on a la possibilité d'être sous la toiture, mais on est en pleine dans la nature. C'est rare. Et en tant que poète, vous vous souvenez d'ailleurs que lorsqu'on a fait la dernière édition du Festival international des poètes des sept collines de Yaoundé, nous étions venus ici, on a fait venir nos amis de partout, du Sénégal et de partout, qui ont vraiment apprécié l'endroit et qui sont repartis chez eux. Et chaque fois, ils nous ont demandé comment va le musée où nous avons été pendant le festival. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel de venir ici, de faire découvrir ce lieu et qui ne se limite pas à ces arbres et peut-être à cet autre espace, mais il y a un musée, il y a un trésor extraordinaire là-dedans. Nous devons gagner à le visiter et à nous enrichir de l'héritage que ceux qui sont partis, ceux que nos ancêtres nous ont laissé. Voilà ce que je peux dire. Mais je sais que c'est très en deçà de ce qu'il faut dire par rapport à cette maison. Mais je dis tout simplement chapeau, je dis merci à maman Thérèse Fouda. Merci infiniment.
Sur les choix, au niveau de la première découverture.
Bien, vous savez, notre démarche quand un auteur vient à Ifriqiya, on lui pose toujours un certain nombre de questions. Monsieur ou madame, vous avez certainement une vision personnelle de ce que pourrait être votre couleur, la couverture de votre livre. Peut-être que vous avez une illustration, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous souhaitez, votre rêve? Et c'est à partir de là que nous allons commencer à travailler la couverture. C'est jamais quelque chose qu'on impose. Il y a des auteurs qui viennent avec des propositions concrètes et d'autres qui nous disent, écoutez, moi, cette affaire-là, vous êtes éditeur, vous allez faire comme vous l'entendez. Et je pense que c'est dans cette deuxième catégorie que notre auteur s'est situé. Il nous a laissé la latitude de lui proposer quelque chose qu'il allait choisir. Et là, d'ailleurs, nous n'imposons pas un seul modèle. C'est toujours des modèles, deux ou trois modèles, ou trois au moins. Trois modèles de couverture que nous envoyons, que nous proposons à l'auteur et à lui. Soit de choisir l'un de ces modèles-là, soit alors d'améliorer un modèle ou de nous proposer quelque chose d'autre. Donc ça arrive très souvent. Et dans un premier temps, ce n'est pas la couverture que notre auteur Ahmad avait choisie. Parce qu'il y avait une autre illustration qui avait sur la, une autre illustration qui présentait plutôt les pays de l'Afrique centrale, avec, je crois, la carte d'Afrique centrale, avec quelques nuances esthétiques particulières. Alors, c'est cette couverture-là, c'est cette illustration que lui, il avait choisie. Mais lorsque le graphiste et moi-même, nous nous sommes retirés, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, mais tiens, si nous voulons vendre vraiment ce livre, est-ce que en mettant devant un élément géographique, la carte d'Afrique centrale, est-ce que ça pourrait véritablement être le reflet de ce que ce livre devrait être? Alors je l'ai rappelé, je lui ai dit, nous on a vu, après que vous ayez choisi, vous avez fait votre choix, nous on a pensé que vraiment la couverture avec des enfants dans le, en train de marcher sur le désert, c'est véritablement la meilleure, plutôt que la carte qui a une orientation plutôt géographique. Oh, c'est pas un livre d'histoire, de géographie, c'est un roman. Et c'est pour cette raison que le graphiste, c'est lui qui a conçu. Il n'est pas là aujourd'hui, Eric Joël, notre graphiste, Eric Joël, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait un travail extraordinaire. Je pense que c'est l'un des meilleurs graphistes que l'Afrique a en ce moment. Donc je voudrais vraiment qu'on applaudisse pour lui et qu'on lui transmette à lui ses félicitations. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci.
À présent, l'auteur, plusieurs questions également.
Merci. Pourquoi ici? Les enfants du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Nigeria ont fui la savane pour venir se réfugier dans la forêt. Par rapport à la question de maman sur la poésie, pourquoi ne pas écrire peut-être un poème ou soumettre à la maison d'édition? Je vous avoue, c'est la même question que monsieur l'éditeur m'a posée lorsqu'il a lu l'ouvrage. Avant même de s'engager avec lui, il m'a juste demandé, mais attends, où est ton poème? Je lui ai dit, et c'est la même réponse que je vais vous donner, c'est que peut-être de nature, je peux être poète, mais j'ai opté par transmettre cette poésie à travers mes personnages. Si vous lisez ou bien si vous tombez devant mes productions, vous allez toujours vous rendre compte que la plupart de mes personnages optent pour la poésie. Et dans ce roman, le plus grand poète, c'est ce jeune Abdel qui a su utiliser cette poésie comme arme à transmettre la paix. Donc, c'est pourquoi, par rapport à la poésie, je ne me vois pas peut-être dans un futur, mais pour le moment, j'ai opté de transmettre cette poésie à travers mes personnages. La préoccupation des voix d'enfants. Est-ce que je suis allé sur le terrain? Est-ce que j'ai discuté avec ces enfants? Les deux questions, je pense, se retrouvent. Je suis d'abord un enfant né dans cette localité, grandi dans cette localité. Je connais la réalité. Ce n'est pas m'asseoir peut-être dans un amphithéâtre ou bien dans une salle de classe où on va m'ouvrir l'histoire du Logone-Chari, l'histoire de la région de l'extrême nord, l'histoire du Sahel, l'histoire du bassin du lac Tchad. Non, nous les vivons au quotidien. Nos parents vivent cela au quotidien. Nous touchons cela de la réalité. C'est pourquoi cette histoire, peut-être, je n'ai pas rencontré Boukar, peut-être je n'ai pas rencontré Amina, mais je connais tout ce que vivent les enfants de cette partie du monde. Je connais s'ils ont faim à travers juste le regard d'un homme ou d'une femme de cette partie vous allez voir cette sensibilité à travers leur visage, même à travers juste leur silence, vous pourrez peut-être écrire tout un livre. C'est pourquoi ces enfants, c'est moi. Ces enfants, c'est mes petits frères. Ces enfants, c'est mes voisins. Ces enfants sont tous ceux qui ont eu la chance de vivre dans cette localité. Et je m'attendais peut-être à une question, pourquoi avoir choisi ces noms? Les différents noms caractérisent cette partie du pays. Vous allez retrouver un nom nigérien, vous allez retrouver un nom nigérien, vous allez retrouver un nom tchadien, un nom camerounais. Parce que c'est ensemble qu'ils vivent, nous avons la même culture, nous avons la même tradition et c'est pourquoi j'ai choisi ces noms. À la question de savoir que sont devenus ces enfants aujourd'hui, mon cher, ces enfants sont là pour transmettre un message. Ces enfants sont peut-être de la fiction, mais ces enfants existent. Ces enfants existent dans nos camps de réfugiés. Ces enfants sont peut-être parmi nous actuellement. Ces enfants peuvent être peut-être enfermés, peut-être recueillis dans les centres DDR. Parmi ces enfants, il y a des anciens soldats. Parmi ces enfants, il y a des orphelins. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est qu'ils avaient un rêve. Ils avaient de l'espoir. Et ils ont pu, à la fin, si vous lisez le livre, pu arriver à une frontière zéro où ils vivent en paix, où ils parviennent à aller à l'école, où ils sont devenus des instituteurs, où ils sont devenus peut-être, ils encadrent les autres. C'est comme ça que ces enfants sont devenus. Je vous en prie, merci beaucoup. Par rapport à l'illustration ou bien à la couverture, c'est vrai, comme il l'a dit tout à l'heure, j'avais d'abord opté pour une carte, mais lorsqu'ils m'ont présenté, nous avons apporté quelques corrections. Ceci illustre parfaitement cette zone sahélienne. Ceci illustre ce que la chaleur, cette partie du pays vit comme chaleur. Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'il y a des arbres dans cet endroit? Non. Pourquoi la couleur rouge? C'est la souffrance. Pourquoi est-ce qu'ils marchent? Parce que ces enfants errent. Ils cherchent où aller se réfugier. C'est tout comme explication. Je vous remercie.
Avant de passer la parole derrière, on va donner la parole à M. Younous Dibrine, qui a évidemment un intérêt particulier pour le livre. On l'a vu observer chaque question, chaque réponse.
Merci beaucoup pour le honneur que vous me faites. Surtout le livre, comme mon fiston me l'a donné hier, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu le terminer. Mais comme il l'a dit, lui, comme nous qui sommes ses aînés, ou les enfants qui sont encore sur le terrain, en fait, pour répondre déjà à quelqu'un qui complétait sa réponse, ces enfants, que sont-ils devenus? Mais ils sont encore là, les mêmes types d'enfants existent encore, qui vivent les mêmes conditions. Même si leurs aînés ont évolué, instituteurs ou prêteurs, mais le problème est là. Et ce problème, je crois que il faut un grand bravo à l'auteur, Ramat. Il y a quelques semaines avant lui, c'était le professeur Hassanay Ibrahim, qui ont commencé à dépouiller, à faire comprendre aux Camerounais qu'est-ce que le Cameroun. D'ailleurs, monsieur l'éditeur, je vous félicite beaucoup pour ce choix, parce que c'est bien le paysage sahélien, mais c'est aussi le Cameroun. Et ce n'est pas, je crois que, sans vous consulter, moi j'ai conclu que si on est ici, c'est pour montrer la diversité du Cameroun. On raconte une histoire du Sahel dans un musée de la forêt. Nous sommes bien au musée de la forêt. Et ce n'est pas un hasard non plus, parce que vous savez, quelqu'un a dit tout à l'heure que les Africains, si on écrit un livre, c'est pour leur cacher la vérité. Nous le faisons en plus sous un grand arbre. L'histoire chez nous là-bas se raconte sous l'arbre à palabres. Nous sommes sous un arbre à palabres. Et c'est là que un proverbe chez nous qui dit celui qui a grandi sous son père connaît ce que racontait son grand-père. Parce que c'est de bouche à oreille. Et c'est sous l'arbre à palabres que ça se discute. Ça, c'est pour le symbole. Mais la réalité, je suis très content qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de médias représentés ici. Ces mêmes médias qui, à mon avis, sont très absents et silencieux par rapport à ce qui se passe dans cette région du Cameroun aussi. Hein? Il y a un seul média qui parle de ça et que dans sa parution d'avant-hier, il signale déjà deux morts du côté de Koza. Et c'est presque tous les jours, s'il y a un des numéros qui ne signale pas, le numéro suivant signale ça. Et c'est l'unique média qui en parle. Ni les médias audio, ni les télévisions, ni les journaux écrits n'en parlent pas comme si là-bas ce n'est pas le Cameroun. Et je crois que quand l'auteur a dit tout à l'heure que lorsqu'il a fait son essai, celui qui a préfacé, le professeur qui a préfacé, pour devenir professeur, il a traversé une zone qui peut vous réveiller la conscience. Quand il faisait sa thèse de doctorat, son directeur de mémoire à Yaoundé, à l'histoire, quand il voulait faire son doctorat sur l'histoire des conflits interethniques autres dans le bassin du lac Tchad, il lui a dit de changer de sujet parce que personne ne connaît de quoi il s'agit là-bas. Professeur d'histoire à l'université du Cameroun, on était dans les années 90, il lui a dit cherche, moi je ne peux pas t'encadrer et tu ne trouveras même pas d'archives. Il n'y a rien, tu ne trouveras rien là-dessus. Pourtant, c'était... Il pouvait se rapprocher de nous sur un document que nous avions rédigé à l'époque, pas pour être des professeurs d'histoire, ni pour faire autre chose, mais avec mon voisin ici, l'honorable, et d'autres personnes, c'était pour faire connaître l'histoire de ces trucs. Quand il est venu prendre ce document, que nous ne sommes pas historiens, lui il est pharmacien, moi je suis postier, et les autres sont de notre métier. Mais quand notre document d'information qu'on a préparé, il est allé le montrer à son professeur, il lui a dit, mais en fait, tu as même toute ta thèse qui est là-dedans. Maintenant, je suis prêt à te suivre. Et ce doctorant est devenu maintenant la référence dont tout le monde parle. Parce qu'avant ça, des Camerounais, professeurs d'université, ne connaissent pas l'histoire. Et quand nous étions au lycée, ils nous racontent l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique, l'histoire de l'Europe. Bon. C'est donc bien que vous, les jeunes, là, vous posez maintenant les problèmes. Vous savez, Boko Haram est lié, quand vous entendez Boko Haram dans le commun des Camerounais généralement, c'est lié à beaucoup les qualifient plutôt les intégristes, les djihadistes, les machins. C'est-à-dire, c'est lié à l'islam. C'est-à-dire, c'est comme si c'est sécrété par l'islam. Alors que tous ces noms qui figurent dans ce roman, c'est le nom des musulmans et qui sont les victimes depuis le début et continuent à l'être. Hein? Boko Haram, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Hausa pour dire que Boko, c'est l'école. Haram, c'est l'interdit. Et c'est né d'un conflit que les jeunes de l'état du Borno State, dont la capitale est Maiduguri, avaient avec un de leurs anciens gouverneurs. Ils avaient des problèmes de jeunes, tout ça, qu'il a conclu un accord avec eux, il ne l'a pas respecté. Et ils se sont insurgés. Et insurgés, c'est ainsi que le Nigeria ou Boko Haram est né, on les appelle comme ça, on dit insurgency. C'est des insurgés. Et qui disent que bon, voilà le type-ci qui a fait l'école, il nous a trompé, donc votre école là, c'est même de l'interdit. Et ils s'attaquaient au symbole de l'école, parce que le monsieur qui semblait être un produit de l'école les a trahis, il n'a pas respecté ses engagements. Donc, entre-temps, ça a évolué dans toute la région, ça a contaminé tous les pays voisins, le Cameroun, le Tchad, le Niger, et ce n'est pas un hasard. Tous ces quatre pays ont une histoire commune. Pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler de Kwame Bornou, c'est cet espace-là. C'était un empire qui était là jusqu'à la fin du 19e siècle. C'était un empire. Donc, ils étaient commandés par la même histoire. Ils parlent de frontières ici, mais en réalité, c'est des frontières imaginaires qu'on a tracées. Mais les familles se trouvent de part et d'autre dans chacun de ces pays-là. Donc, et c'est dans une circonstance pareille, ça permet quand même à vous qui êtes présents de parler quand même de l'autre partie du Cameroun aussi, parce que quand on dit c'est l'Afrique en miniature, vous savez, il y a des petits raccourcis que ces derniers temps on a pris. Quand on dit l'Afrique en miniature, c'est sur plusieurs aspects, mais sur l'aspect purement ethnique, c'est-à-dire que le Cameroun regroupe en lui seul les quatre grands groupes ethniques qu'on rencontre en Afrique, c'est-à-dire les Bantous, les Soudanais, les Hamites et les Sémites. Maintenant, on a pris un raccourci, le petit Cameroun qui représente normalement, qui regroupe tous les groupes ethniques du Cameroun, on l'a divisé en aires culturelles. Je ne sais pas à quelle fin. Ou c'est parce qu'on ignore justement les réalités de part et d'autre, et puis il faut trouver des choses pour amuser la galerie. Mais maintenant, il faut quand même que ces auteurs-là, à défaut des médias, à défaut des hommes politiques, excusez-moi, monsieur le président, à défaut des hommes politiques, on a au moins des jeunes qui nous abordent ce sujet, et grâce à vous, les médias, vous amenez les Camerounais à connaître leur pays. Parce que si on est l'Afrique en miniature, il ne faut pas nous réduire en petit espace culturel. On est toute l'Afrique, et tout ce qu'on rencontre en Afrique, et là, quand j'ai dit Hamid et Sémite, et ça, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas de quoi il s'agit. Celui qui est là, c'est un Sémite. Les Sémites, ce n'est pas seulement les Israéliens, les Arabes aussi le sont, parce que c'est les descendants d'Abraham. Alors, les Hamites, c'est les Peuls. Les Soudanais, c'est les autres qui sont avec nous là-bas. Et tout le reste ici fait partie des Bantous qui vont jusqu'en Afrique du Sud. Il ne faut pas nous subdiviser en petites aires culturelles comme si chacun se recroquevillait chez lui. Permettez au Cameroun de connaître le Cameroun, les Camerounais. Et c'est bien, merci pour votre musée ici, qui nous accueille ici pour raconter une histoire du Sahel où il n'y a aucun arbre, où nous sommes ici en pleine forêt. Et c'est ça aussi le Cameroun sur le plan géographique. Il comporte aussi tout ça.
Merci de passionner pour M. Younous. Ça nous a permis de faire quand même le tour, hein, en termes d'histoire, en termes de connaissances. On va prendre deux dernières interventions. Parce qu'on ne va pas vous retenir toute la journée aussi. Hein. Vous savez que la fête, elle est bonne lorsqu'elle ne dure pas trop longtemps. On va donner la parole là, juste derrière, avec la casquette d'abord. Les deux dernières interventions.
Okay. Bonjour. Je suis Simplice Bougambondo. Je suis un amoureux des mots. Je m'amuse à écrire et de temps en temps aussi je m'intéresse à des questions de sécurité. Je pense qu'on dit souvent l'appétit vient en mangeant. À force d'avoir donné la parole à l'auteur, nous avons commencé à lire l'auteur. Parce que moi, en tant que, on va dire, artiste, j'ai toujours pensé que l'art n'est pas toujours simplement donné à voir, un donné à lire ou un donné à écouter. C'est aussi un donné à vivre. Et je crois qu'à travers sa dernière intervention, nous avons commencé à le lire. Nous avons commencé à le lire et puis vraiment je dois saluer ses caractères, ses qualités d'orateur. Il a su dire qui il est et surtout ce que nous pouvons retrouver dans ce roman. Et moi vraiment je voulais féliciter le président parce que c'est la première fois que c'est peut-être prétentieux, mais c'est assez rare que je trouve un auteur qui sait parler, c'est-à-dire qui sait parler de lui-même d'abord et par conséquent de nous prêter l'univers et donner vraiment envie d'entrer dans cet ouvrage-là. Vraiment, ça, quand je l'ai écouté tout à l'heure, là, je me suis rappelé mes brefs séjours au Nord. Et puis quand je regardais la couverture, et la fragilité, l'austérité qui font justement la beauté du Nord ressortent vraiment dans cette première de couverture-là. Et en l'entendant parler, j'ai d'abord cru que c'est lui qui avait fait le premier choix. Parce qu'il a une sensibilité, on va dire un peu à fleur de peau. À fleur de peau, ça se voit, ça se sent quand lorsqu'il prend la parole. Vraiment, la couverture, elle sait vraiment rendre ce que on ressent lorsqu'on arrive dans la région du Septentrion. C'est-à-dire cette fragilité, mais qui en même temps cache certaines forces, qui cache certaines forces. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je ne saurais m'asseoir, puisque j'ai appris qu'il est expert des questions de sécurité, sans peut-être avoir la prétention de lui poser, sans lui poser une question. Parce que nous sommes aujourd'hui, le Cameroun est pris dans une espèce d'étau sécuritaire qui non seulement n'est pas simplement le fait de l'extérieur, mais aussi le fait de l'intérieur. Nous comprenons que notre État est un État en gestation. C'est un État en gestation qui est en train de faire ses marques, qui essaye de se construire, qui essaye de s'affirmer. Moi, je voulais poser la question à l'expert. Quel est son regard sur cette situation, la situation du Cameroun actuel pris justement dans cet étau sécuritaire multiforme-là? Quel est son regard et quelles sont les perspectives que lui envisage? Est-ce qu'il pense que, en fait, vers quelle horizon est-ce que nous allons aller? Surtout qu'il a travaillé sur Boko Haram, qui est une question qui est très connue par le, qui est très, parce que le meilleur expert, c'est Saïbou. Ce docteur professeur Saïbou, pour moi, c'est le meilleur expert sur la question de Boko Haram. Et il est prépassé son essai, ça veut dire qu'il a dû lui inculquer ou bien lui prêter, ou alors lui donner quelques secrets que nous n'avons pas.
D'accord, donc, voilà. Merci beaucoup. Toute dernière intervention juste devant vous.
Bonjour, je suis Jeanne Sarrou, artiste pluridisciplinaire et promotrice culturelle, entrepreneur culturelle. Déjà, l'auteur, je vous félicite pour cet ouvrage. Alors, ma question est de savoir, vous avez dit quelque chose, s'il faut retenir, ce livre est stratégique. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et puis, qu'est-ce que vous attendez concrètement du lecteur qui referme ce roman après l'avoir lu?
Merci. Parole à l'auteur.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Saint-Mathis, de ces belles paroles. Nous sommes encore jeunes. Nous battons à suivre les pas de nos aînés et à écouter plus nos parents. Question d'insécurité. Waouh. Mon regard, c'est que nous vivons, je peux dire, pratiquement dans un même pays, mais je peux dire un pays divisé pratiquement en trois. Il y a une partie du pays qui vit, qui dort paisiblement, qui se réveille le matin, va normalement à ses occupations, que je pourrais qualifier du centre-sud, une bonne partie de l'ouest. Une autre partie que je n'aimerais pas qualifier de partie anglophone, parce que pour moi, nous sommes tous Camerounais, unis, indivisibles, et nous parlons la même langue. Et nous avons nos langues maternelles. Le français et l'anglais est juste un décor pour nous permettre de discuter avec le monde extérieur, mais pas entre nous. Associé à cette partie qui, depuis des années, avec l'insécurité, il y a une petite partie également que j'aimerais coller à cela, c'est cette insécurité du côté de l'Est, avec la frontière. Et une autre partie du pays, complètement coupée, c'est l'extrême nord ou bien le grand nord. Mais plus l'extrême nord avec l'insécurité, avec la crise humanitaire. Mon regard ici, ou bien mon analyse personnelle, c'est que les crises existent.